voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Marie, allez, je me rapproche de toi. Donc, cette série d'émissions parle de paysannerie. Donc, je viens de terminer un tour de France où j'ai rencontré un des nouveaux paysans qui s'installe en agroécologie, en permaculture, en agroforesterie, en maraîchage, élevage, hein, tout type de projet. Et souvent, le mot « terre de lien » est revenu dans les échanges que j'ai pu avoir. Et souvent, une des problématiques auxquelles faisaient face tous ces nouveaux paysans, souvent des jeunes qui font le choix d'un retour à la terre parce qu'ils ont envie d'incarner quelque chose de conscient, souvent se retrouvent face au problème du foncier. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'on me parlait de « terre de lien ». On va prendre le temps peut-être de revenir sur l'histoire de « terre de lien », pourquoi et comment s'est créée cette association et pour qui.
Alors l'origine de Terre de Liens, c'est un groupe de paysans qui ont fait leur retour à la Terre dans les années 70 et qui font le constat au début des années 90 que si leurs enfants avaient la même intention de faire ce retour à la Terre aujourd'hui, ils endetteraient leurs petits-enfants en achetant une ferme, alors que eux à l'époque avaient profité de l'exode rural, avaient accédé à des biens en Ardèche, mais même aussi en Alsace ou dans d'autres régions à des prix assez bas. L'augmentation du prix de la terre, l'artificialisation, la pression foncière, la spéculation sur le patrimoine agricole faisait qu'il y avait un renchérissement de plus en plus important des fermes qui rendait quasi impossible le fait de s'installer paysan en devant acheter sa terre, son bâtiment et aussi au vu des normes importantes qui pèsent aujourd'hui par exemple sur quelqu'un qui fait de l'élevage. Et donc l'initiative qui a été portée par ces fondateurs de Terre de Liens a été d'imaginer un dispositif où les consommateurs sont partie intégrante du montage du projet au travers le portage collectif et solidaire du foncier et du bâti de la ferme en considérant que c'est un bien commun, que c'est un bien commun qui nous nourrit, donc que le consommateur a vocation à porter sa voix sur la manière dont la terre est gérée et cultivée. Et cette terre est confiée à des paysans qui se renouvellent de génération en génération sur des fermes qui restent propriétés de Terre de Liens. Et ainsi, on a imaginé un système où Terre de Liens permet de sortir la terre agricole du marché spéculatif.
Donc tu dis que ça s'est créé en 1970, donc à cette époque-là, le prix des terres ont commencé à flamber?
Alors dans les années 70, c'est la grande période de l'exode rural, de l'industrialisation de l'agriculture, donc les plus petites fermes disparaissent, les paysans quittent leurs fermes, vont plutôt sur des boulots en ville, et à cette période-là, on a une déprise agricole qui donne l'opportunité à des gens qui font leur retour à la terre de s'installer. À partir des années 90, on voit que ce mouvement devient plus difficile parce que le prix de la terre augmente. C'est la perte de la prise de conscience qui a mené à la création de Terre de Liens. Pendant une dizaine d'années, ça a été en germe dans différents mouvements, notamment au sein des mouvements d'agriculture bio, biodynamique, de la finance solidaire, notamment avec la NEF, qui faisait partie du collectif qui a créé Terre de Liens. Il y a eu une longue période d'analyse de différentes initiatives collectives comme le LARZAC, qui avait permis à des paysans de conserver leurs terres face à un projet de spéculation et d'agrandissement d'une zone militaire. Et l'idée de Terre de Liens a germé pendant ces années 90 et a permis en 2003 la création de la première association Terre de Liens.
Avant de continuer sur Terre de Liens, tu me parlais de l'industrialisation de l'agriculture. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de l'industrialisation? À quel moment le monde paysan a commencé à disparaître pour se tourner vers ce qu'on appelle les exploitants agricoles?
C'est vrai que c'est une thématique qui est essentielle dans l'approche aujourd'hui de la compréhension de l'agriculture et du monde agricole actuel. On est passé de plusieurs millions d'agriculteurs en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui 450 000 chefs d'exploitation. C'est la population active qui a perdu le plus d'actifs ces 50 dernières années. Et un des premiers mouvements aux sorties de la guerre était de faire de l'entreprise agricole une entreprise comme les autres, et plus une structure familiale où on se renouvelle de génération en génération avec une transmission du patrimoine du père au fils, et une agriculture plutôt vivrière, paysanne, avec les fermes on va dire, de qu'on imagine l'image d'Épinal avec des céréales, un petit peu de culture, le potager, quelques animaux, des poules, des lapins, et ce système extrêmement diversifié qui fonctionne quasiment sur lui-même. Dans les années 50-60, les politiques agricoles visent à apporter des capitaux dans l'agriculture, à industrialiser, à trouver des systèmes avec une économie de marché, avec une meilleure rentabilité, et c'est ce qui a conduit à cette industrialisation, mais qui avait aussi vocation à produire des denrées agricoles à une période où on en manquait, en France et en Europe. Et c'est tout ce qui a conduit au développement de la PAC, et où aujourd'hui on voit tous les effets néfastes de cette organisation très particulière, de ce système économique, où on compense les déficits de l'agriculture par des primes. Et c'est aujourd'hui ce système qui est en transition avec les nouveaux paysans, les néo-paysans, qui reviennent à l'agriculture et qui veulent sortir de ces schémas, qui veulent aller vers une agriculture non pas de crise, mais une agriculture de territoire, une agriculture paysanne, en circuit court, avec de l'agroécologie, cette vision de la relation aussi avec les espaces naturels, avec le paysage, avec le respect du sol, le respect des ressources et un lien au consommateur. Aujourd'hui, les néo-paysans qu'on accompagne à Terre de Liens n'ont aucune envie de passer leur vie sur un tracteur avec un GPS qui leur indique le point de départ et le point d'arrivée du champ qu'ils vont traverser. Ça va leur prendre 1 heure et quart parce que la parcelle, d'un bout à l'autre, il n'y a pas un arbre, il n'y a aucun contour, il n'y a rien du tout. Les personnes qui viennent vers l'agriculture paysanne aujourd'hui, qui sont en reconversion professionnelle pour la plupart, ben, ils amènent leurs compétences de leur métier ancien. Ils viennent avec une image nouvelle. Ils viennent sans les schémas mentaux que certains agriculteurs reproduisent un peu par mimétisme de génération en génération. Ils viennent sans cadre précis et ils se réinventent aujourd'hui une certaine agriculture. Alors avec de la casse aussi, avec aussi des gens qui n'y arrivent pas, avec aussi des gens qui se font mal sur des fermes qui sont peut-être pas toujours la plus adaptée pour le projet qu'ils avaient imaginé. Mais avec des réussites incroyables et des rencontres que nous, on a l'occasion de faire, de porteurs de projets qui ont des projets plus diversifiés les uns que les autres, avec des dimensions sociales, culturelles, des projets avec une ouverture sur le territoire, sur les consommateurs, des fermes où on a à la fois une brasserie, une guinguette, le petit marché de producteurs, une production diversifiée, des fermes où on s'installe en collectif. Et c'est tout ça qu'on voit, nous, dans le paysage de Terre de Liens. On a une image, en tant que salarié Terre de Liens, on a une image très particulière de l'agriculture, parce qu'on voit que des projets hors normes, hyper enthousiasmants, qu'on a envie d'accompagner et de suivre parce que ils sont motivants et qui nous donnent envie de changer un peu le paysage agricole autour de nous. Intéressant, mais dont le premier frein est l'accès au foncier, à savoir où est-ce que je vais trouver la ferme où je vais pouvoir monter mon projet. Et la ferme idéale n'existe pas.
Avant de parler de ces projets, de ces néo-ruraux qui font le choix du retour dans les campagnes, j'aimerais définir quelques termes. Comment est-ce que tu expliquerais la PAC à un enfant ?
Aujourd'hui, un agriculteur, lorsqu'il fait pousser une salade, lorsqu'il vend sa salade, on ne lui paye pas son travail. Le prix de la salade, il est compensé par des aides qu'on lui donne en plus pour que toi, tu puisses acheter la salade à un prix où tu peux la sortir de ton porte-monnaie sans que ce soit difficile. Et c'est l'Europe qui vient compenser ce prix de vente inférieur à ce qu'il devrait être.
Et donc, celui qui produit une salade, est-ce que c'est la même subvention si tu la produis en bio ou si tu la produis en conventionnel ? Est-ce qu'un agriculteur qui va faire une salade bio va aussi avoir une subvention de la PAC ?
Alors, le malheur de la PAC, c'est que la subvention, elle n'est pas au produit, elle est aux surfaces. Et plus les exploitations sont grandes, plus on reçoit d'aide, et on va plutôt aider les grandes fermes céréalières qu'aujourd'hui les petits producteurs qui ont des productions diversifiées. Un maraîcher reçoit très peu d'aide de la PAC. Par contre, il y a d'autres systèmes d'aide qui vont pouvoir lui permettre d'augmenter son revenu, par exemple sur la bio, pour pouvoir se faire certifier. Il y a un certain nombre d'aides qui existent. Et il y a du soutien pour ceux qui s'engagent dans cette voie-là. Mais les grandes aides européennes, les grands schémas européens, n'ont pas pris cette direction, ou en tout cas aujourd'hui n'ont pas pris cette direction, même si pas mal d'organisations alternatives aujourd'hui font pression sur l'Europe pour que les règlements et les choix stratégiques de reversement d'aide privilégient l'agroécologie. Et je ne serais pas non plus trop critique là-dessus parce que on sent quand même des revirements et des changements dans la vision des politiques et des organisations qui aujourd'hui envisagent beaucoup mieux ces transitions agroécologiques qu'on pouvait l'avoir il y a 10 ans.
Mais j'ai l'impression qu'il y a une impopularité qui est en train de se mettre en place face à ce type d'agriculture aujourd'hui.
C'est vrai, et en même temps, on a aussi une impopularité de l'élevage qui est en train de croître, où on ne fait pas la distinction entre une agriculture paysanne et une agriculture de type industriel. Nous, à Terre de Liens, le modèle qu'on défend, c'est l'agriculture paysanne. Une agriculture paysanne, c'est une agriculture où l'homme reste maître de son outil de travail, où la taille de la structure permette qu'on puisse la financer sur une personne, quoique avec les problématiques foncières bâties que j'évoque à Terre de Liens, on voit que c'est quand même aujourd'hui pas si simple, mais l'homme reste maître de son outil, c'est pas des logiques financières qui doivent s'appliquer, c'est une logique agronomique d'une ferme qui va fonctionner parce que on va apporter du compost qui va nourrir la terre, on va produire des légumes qui vont être vendus en vente directe, on va avoir un cercle de consommateurs autour de la ferme qui va lui donner une forme d'équilibre et de stabilité. Et dans l'agriculture paysanne, on va plutôt valoriser des réseaux de petites fermes. Alors après petites, il faudrait le définir, mais avec cette logique de vente directe et d'agroécologie.
Et donc cette agriculture paysanne est en train de se redévelopper. Je me rappelle qu'enfant à l'école, c'était une insulte, fils de paysan. Et aujourd'hui, c'est en train de changer complètement ce terme-là.
Oui, complètement. Et nous, on l'utilise volontiers, voire même par provocation. On utilise le terme paysan, fermier paysan, pour les distinguer de l'exploitant agricole qu'on va rencontrer plutôt à la chambre d'agriculture ou dans les grandes organisations syndicales. Et ce modèle d'agriculture paysanne, on va plutôt essayer de le valoriser dans sa relation au consommateur. Le terme d'agriculture paysanne, il vient surtout du réseau Confédération Paysanne, qui l'a défini, qui a posé un peu le cadre de ce qu'on appelait l'agriculture paysanne, alors avec une pâquerette dans laquelle on va trouver dans chaque pétale des valeurs fortes, mais on va aussi trouver une partie de ces valeurs dans l'agriculture biologique, mais on peut faire une agriculture biologique industrielle, intensive. On va retrouver ça dans des labels comme Nature et Progrès, Déméter. On va plutôt valoriser justement une organisation de ferme basée sur une logique d'agriculture paysanne. Et aujourd'hui, les porteurs de projets que nous on rencontre, c'est des paysans, des gens qui font le paysage.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors parlons de ces nouveaux porteurs de projets, ces néo-ruraux, ces néo-paysans. Qui sont-ils? D'où viennent-ils?
Le profil un petit peu type, c'est quelqu'un qui aura fait 10 ans de carrière dans des métiers ingénieurs, ouvriers, dans des métiers très diversifiés, dans des métiers de service, et qui, arrivé à la trentaine, souvent aussi à la naissance des enfants, prennent conscience de l'envie d'un nouveau mode de vie, cultivent leur jardin et puis commencent à se dire pourquoi pas en faire un métier, ou font une rencontre à l'occasion de vacances où ils sont dans un gîte à la ferme et où ils se disent mais moi je suis enfermée toute l'année alors que finalement c'est cette vie-là dont j'ai envie. Et là commence un cheminement, un vrai parcours du combattant. Et moi j'aime bien le raconter en disant on a tous une petite graine de paysan au fond de nous, on a tous un lien à la terre. Où qu'on soit, où qu'on aille, qu'on soit en ville, qu'on soit en milieu rural, on a tous cette graine de paysan en nous. Certains, il suffira d'aller sur un marché et d'acheter des produits à un producteur local et ça suffira à la nourrir. Elle n'aura pas besoin de plus. Et chez certains, cette petite graine, elle a besoin de pousser un peu plus loin et de voir si on ne pourrait pas en faire quelque chose de concret, d'une vraie vie de famille. Et ça passe par une période d'exploration. Et cette période d'exploration, des fois, elle est longue parce que ça veut dire aller sur des fermes, faire des stages, faire du woofing, aller s'expérimenter à l'animal, en faisant une stage sur une ferme d'élevage, se rend compte qu'on a un lien fort avec l'animal ou qu'au contraire, on adore tellement les animaux qu'on ne peut pas imaginer exploiter leur cycle de vie pour une production et qu'on sera plutôt à l'aise avec le végétal. Et cette phase d'exploration, elle est essentielle dans la création d'un projet agricole parce que c'est là que va se construire un imaginaire et une vocation, j'ai envie de dire. Dans le projet, dans le choix de l'orientation agricole. On a beaucoup de porteurs de projets qui viennent vers nous en disant qu'ils veulent faire du maraîchage sur petite surface. Et la question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous voulez faire du maraîchage sur petite surface par facilité d'accès au foncier, à un mode de production qui va vous demander peu d'investissement, avec un cycle de vie, entre guillemets, maîtrisé, qui est moins engageant que quand on a de l'animal? Quand on a de l'animal, c'est vrai que les obligations par rapport à la santé des animaux, la nécessité d'être technique, d'être compétent, sont plus importantes. On peut avoir une prise de risque plus importante. Il y a un lien affectif aussi qui peut être difficile quand on a des difficultés dans le troupeau. Donc, est-ce que c'est une vraie vocation d'être maraîcher sur petite surface, dans un système peu mécanisé, ou est-ce que c'est un choix de stratégie de... Juste, c'est plus facile de faire ça pour devenir paysan que de devenir éleveur bovin en montagne avec de la transformation fromagère et avec des installations techniques et une compétence à acquérir qui est beaucoup plus importante. Donc après cette phase d'exploration, vient un temps nécessaire de formation. Être agriculteur, c'est un métier, voire c'est même plusieurs métiers en un, puisqu'il faut pouvoir être agronome, commercial, technicien, zootechnique. Il faut pouvoir gérer sa communication, faire de la gestion comptable, éventuellement manager des salariés. Donc, ça nécessite quand même des compétences très vastes. Et en plus, dans un champ économique un peu particulier qui est l'agriculture, qui dépend même pas de la sécurité sociale, mais d'un autre système de sécurité sociale, à la MSA, Mutuelle Sociale Agricole. Et tout ce système-là, il faut pouvoir se l'approprier. L'autre aspect, c'est qu'il y a toute une vision agricole qui est très liée au réseau professionnel. Et si on n'est pas dans les réseaux professionnels, bon, d'une part, c'est dommage. Et d'autre part, c'est prendre peut-être des risques, des fois, de mal s'installer ou de s'installer dans des conditions où on ne va pas avoir un réseau de solidarité autour de soi dans les agriculteurs du secteur qui pourraient avoir des activités un petit peu similaires aux vôtres, avec lesquelles on va pouvoir avoir de l'échange, du prêt de matériel, des coups de main. Donc, dans le parcours, cette période de formation et de stage, elle est assez essentielle. Alors, elle peut se faire en lycée agricole, elle peut se faire en formation professionnelle adulte, mais elle peut aussi se faire par d'autres systèmes. J'ai envie de dire, il y a le brevet professionnel officiel de responsable d'exploitation agricole, mais c'est pas la seule voie. Et ensuite, il y a une phase de maturation, on va pouvoir commencer à chercher sa ferme, on va pouvoir commencer à vraiment définir le cadre exact de son projet. Et dans des régions en Alsace, où par exemple on a peu d'opportunités foncières, où les offres passent très vite, voire il n'y a même pas d'offres du tout, parce que tout se fait par le bouche à oreille, tout se fait dans cette espèce de petite bulle agricole, et une ferme en vente sur un site d'annonce, c'est presque une erreur, enfin c'est un coup de bol pour celui qui la trouve, mais souvent, elle a presque le temps d'être vendue trois fois, le temps qu'on tombe dessus. Et il faut pouvoir se mettre dans ce bouche à oreille, et donc il faut savoir exactement ce qu'on veut pour pas perdre de temps sur des offres qui nous intéressent pas. Et donc il faut avoir une idée assez précise de son projet, il faut avoir une idée assez précise de ce qu'on a besoin en tant que porteur de projet, de voir sous sa fenêtre tous les matins quand on va se lever, parce que prendre une ferme, c'est en prendre pour 25 ou 30 ans. Et si la ferme elle vous convient pas, si économiquement ça va pas, si le terrain, le paysage vous convient pas, s'il y a rien de pire que d'être malheureux sur sa ferme. Parce que c'est un engagement personnel et professionnel tel que faire un mauvais choix, ce serait pire que de ne pas s'installer du tout.
Donc, j'expérimente, je vais faire du woofing, je voyage, je découvre, 2, je me forme, 3, je définis mon projet, et ensuite je me dirige vers Terre de Lien. Quelle va être ma demande, et comment est-ce que Terre de Lien va réussir à m'accompagner ?
Alors, le cœur de l'activité de Terre de Lien va être l'acquisition de fermes foncières et bâties pour les mettre à disposition de personnes qui sinon n'auraient pas pu accéder à la terre ou qui vont se retrouver dans notre vision d'une ferme qu'on transmet de génération en génération sans repasser par le marché spéculatif.
Mais donc, la Terre de Lien est propriétaire et je deviens locataire.
C'est ça. Et aujourd'hui, en France, on a 180 fermes, un peu plus de 4000 hectares, 300 paysans en contrat de bail avec Terre de Liens pour vivre et travailler sur ces fermes sur lesquelles ils sont non propriétaires, sur lesquelles ils travaillent en pensant presque déjà à la génération d'après. Et c'est des fermes qui ne vont plus jamais être revendues. L'outil de travail, le tracteur, les bêtes vont être vendues, mais jamais les bâtiments et le foncier. Ce qui limite l'endettement de chaque agriculteur qui passera sur ces fermes. Simplement, ce modèle-là, c'est une solution de financement, c'est pas la seule, et il peut y avoir d'autres modèles, il peut y avoir aussi une envie d'être propriétaire qu'on reconnaît et qu'on ne va pas décourager si c'est un besoin du porteur de projet. Par contre, on va être vigilant à ce que la personne trouve des offres de foncier correspondant à son besoin pour s'installer, pas prendre une ferme trop petite ou au contraire pas en prendre une trop grande, trouver un bâtiment avec des installations techniques qui correspondent à son besoin. Éventuellement, on va éventuellement travailler sur d'autres modèles de financement participatif pour l'accompagner. Donc, selon les régions en France, selon le nombre d'opportunités foncières qu'on peut avoir à traiter, les associations territoriales du réseau Terre de Liens vont avoir des organisations très particulières. Dans certaines régions, on va faire beaucoup d'acquisitions de fermes parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de transactions. Les porteurs de projets néo-paysans trouvent facilement à accéder à des biens à la vente et peuvent monter un projet avec Terre de Liens sur lequel ils seront donc fermiers locataires. Dans des régions où l'accès au foncier est plus difficile, les associations territoriales Terre de Liens développent d'autres activités. Par exemple, on va accompagner des communes qui viennent nous voir en disant « on aimerait faciliter l'installation d'un maraîcher, on a repéré peut-être quelques terrains sur notre banc communal qui pourraient être intéressants, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce serait propice pour un maraîcher qui viendrait alimenter notre cantine ?» On peut travailler avec des propriétaires privés qui viennent nous voir. Alors, la caricature, c'est souvent j'ai un vilain conventionnel sur mon terrain, comment je peux faire pour plutôt installer un gentil bio à la place ? Alors le droit rural est ce qu'il est, le propriétaire a assez peu de moyens et assez peu d'outils. Mais on travaille aussi avec ces personnes pour envisager la préparation de la fin de carrière de l'agriculteur. Alors aujourd'hui, on travaille aussi même sur des fermes qui ne sont pas forcément issues du réseau bio, mais on prépare la transmission et on accompagne la transmission, que Terre de Liens soit acquéreur ou pas de la ferme. Simplement, nous, notre objectif, notre vocation, elle est de favoriser des installations en agriculture bio. On est en train d'essayer de favoriser l'accès à la terre. Je dis on essaye parce que c'est compliqué. L'accès à la terre, c'est trouver une ferme pour faire pousser son projet. Et en Alsace aujourd'hui, un porteur de projet qui se lance, il en prend souvent entre 3 et 6 ans pour trouver une ferme, selon le projet qu'il a, selon la localisation. Et souvent, on leur conseille de changer de région pour aller dans des régions plus propices. Et les néo-paysans ont moins de chances de trouver une terre en Alsace qu'ils ne l'auraient en Haute-Saône ou en Rhône-Alpes.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Les communes n'ont pas à disposition des terrains qui pourraient mettre justement des jeunes agriculteurs qui se lancent en bio. Chaque commune n'a pas de la terre, n'a pas du foncier.
Alors elle va en avoir, mais elle peut avoir plein de petites parcelles dispatchées partout dans le village qui vont faire une dizaine d'ares chacune. Elle peut avoir des morceaux qui sont enfrichés. Elle peut avoir des terrains qui sont sous contrat de location avec un agriculteur dont le fils va reprendre et de génération en génération ça se transmet. Et donc une commune aujourd'hui, nous, qui vient nous voir ou un propriétaire qui vient nous voir, on va travailler avec eux sur le potentiel. Votre terrain, il fait quelle taille? Votre terrain, il a un accès à l'eau, il a un accès à un chemin. Quel bâtiment on peut raccorder à votre terrain pour permettre à quelqu'un qui ferait des légumes de pouvoir les laver, les stocker au sec et les vendre ensuite sur votre marché? On va essayer de mettre en place toutes les pièces du puzzle qui permettent à quelqu'un plus tard de s'installer. On ne fait pas venir le porteur de projet tout de suite, on vérifie d'abord la faisabilité. Par exemple, on a travaillé récemment sur la région de Mulhouse, sur une parcelle qui est en zone de captage. Ben, quelle culture on peut faire aujourd'hui sur un terrain qui est proche d'une zone de captage d'eau potable et sur lequel, du coup, même les intrants, même en bio, vont devoir être limités, raisonnés et travailler d'une façon très spécifique. Donc ensuite, on lance des appels à projets avec vraiment tous les critères qui sont marqués de façon très officielle et on va accompagner la recherche, la rencontre. Alors c'est autant une histoire de critères qu'une histoire de rencontre humaine et nous, on est très vigilants à travailler les deux pendant. Et pouvoir à la fois proposer une terre à quelqu'un qui a besoin de s'installer, mais aussi lui proposer un partenariat avec un propriétaire qui lui met à disposition un terrain. Et que ce soit une vraie relation donnant-donnant. Je donne accès à la terre, mais je donne accès à la terre peut-être en bio, j'impose le bio comme critère de la mise à disposition. Je suis porteur de projet, je bénéficie d'un terrain dont la location est pas chère. En agriculture, les locations de terrain ne sont jamais très chères. Mais c'est quoi mes engagements vis-à-vis de la commune qui m'accueille? Est-ce que je m'engage à prendre une place sur le marché? Est-ce que je m'engage à accueillir une visite par an pour les écoles? Enfin, quelle est la relation qu'on va créer entre ce propriétaire, ce locataire, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir créer et développer ensemble?
D'où vient le capital de Terre de Liens? D'où viennent les fonds? Comment est-ce que vous pouvez lever des fonds pour pouvoir acheter de la terre?
Alors au sein de Terre de Liens, l'outil qu'on a imaginé, ça relève du financement participatif tout simplement. C'est un financement par la communauté avec deux systèmes. On va avoir un système de dons. Alors le don à une fondation tout à fait classique, hein, don déductible des impôts. Je donne l'État me rembourse une partie sur mes impôts. Et ça, c'est le système, on va dire, un peu ultime qu'on a pu développer en créant une fondation reconnue d'utilité publique qui va être comme un conservatoire des espaces agricoles. On a le conservatoire du littoral. Terre de Liens a développé un conservatoire des espaces agricoles. Et là, on va fonctionner avec du don et un petit peu de subvention. Des personnes subventionnent, des communes, des régions subventionnent Terre de Liens pour acheter des biens agricoles. Mais notre principal outil de financement participatif aujourd'hui, c'est un système d'épargne solidaire. On a un système d'achat de parts à 103,50 €. Alors 103,50 € parce que le montant de la part évolue très peu, mais il évolue un petit peu. Et c'est une épargne solidaire parce qu'elle n'est pas rémunérée. Donc il n'y a pas de rémunération du capital. On place une part, deux parts, trois parts, 100 parts. On va les dédier à un projet où on va dire je fais confiance à Terre de Liens pour le placer sur le projet qui en a le plus besoin aujourd'hui. Et ce système d'épargne solidaire a permis aujourd'hui d'acheter les 180 fermes qui sont dans le réseau.
Combien de cotisants dans Terre de Liens? Parce que j'ai l'impression que c'est encore très méconnu finalement. On parle peu de Terre de Liens.
Alors nous, on a
l'impression. Sauf dans le réseau agricole, bien sûr.
C'est relativement confidentiel parce que parle d'un sujet qui n'est pas simple à la base, on parle de foncier agricole. Faire un financement participatif sur une plateforme, c'est peut-être plus facile parce qu'on présente le projet dans sa globalité. Nous, ce n'est pas le projet qu'on finance, on finance l'achat d'une terre et d'un bien agricole qu'on va garder de génération en génération. Le porteur de projet qu'on accompagne aujourd'hui pour s'installer sur ce lieu, il est important, mais ce qui est important, c'est aussi comment ce bien il va pouvoir ensuite passer à un autre porteur de projet, puis à un autre porteur de projet, et comment on va pouvoir entretenir, gérer ce bien sur le long terme. Et nous, c'est vraiment une de nos préoccupations, d'acheter une ferme, mais d'être aussi capable de la gérer, de l'entretenir, d'avoir une relation avec le fermier sur place, donc d'avoir des équipes de bénévoles locales qui vont pouvoir jouer ce rôle de lien. C'est de la terre et le lien dans Terre de Liens. Et quand on a acheté une ferme, moi je dis souvent, c'est le début de l'aventure. Ça nous a pris 2 ans de boulot pour monter tout le projet, acheter la ferme, faire les démarches auprès des notaires, lancer la collecte de souscriptions, rencontrer des gens sur des foires, des salons, convaincre des personnes d'enlever un peu d'argent de leur livret A pour plutôt le mettre à Terre de Liens pour financer l'achat de cette ferme. Mais la vraie histoire, elle commence une fois que la ferme elle est achetée.
Quels sont les engagements des porteurs de projets envers Terre de Liens ?
Alors Terre de Liens, on a une particularité, c'est qu'on ne donne à disposition les biens agricoles qu'on possède exclusivement sur ce qu'on appelle un bail rural à clause environnementale. Donc le bail rural, c'est le contrat de base dans le système agricole pour mettre en location du foncier et du bâti. Et les clauses environnementales, c'est 14 clauses que la loi nous autorise depuis 2007 à inscrire dans un bail. Donc c'est assez spécifique, c'est assez cadré. Les 14 clauses sont descriptives, elles nous disent qu'on ne doit pas retourner les prairies, on ne doit pas arracher les haies, on doit faire une agriculture dans un certain système, on peut imposer l'agriculture biologique, c'est ce qu'on fait à Terre de Liens. La clause agriculture biologique, elle est mise systématiquement, mais au-delà de ces 14 clauses, on va aller voir sur le terrain comment elles vont pouvoir s'appliquer. On va aller regarder, par exemple, sur une ferme de montagne, on va regarder où sont les murets de pierre sèche qu'il va falloir conserver parce que c'est des endroits favorables à la biodiversité. On va regarder qu'on a des bosquets de genévriers qui sont intéressants parce que dans le paysage, ça crée des points d'ancrage. On va regarder les arbres remarquables. On va se dire que tiens, telle parcelle en plaine, elle mériterait d'avoir une haie pour la protéger de la parcelle de maïs juste à côté. Et on va envisager avec l'agriculteur une gestion environnementale de la ferme, mais qui soit cohérente aussi avec la gestion agricole du quotidien. On ne va pas faire des spots de biodiversité où plus aucune culture ne serait possible. On va essayer de trouver le bon équilibre entre renaturer ou maintenir la biodiversité sur une ferme. Et sur certaines fermes, on doit vraiment même investir pour restructurer, ramener du vivant, ramener de la biodiversité, des haies, ce qu'on va appeler les infrastructures agroécologiques nécessaires parce que l'agriculture industrielle, elle a complètement enlevé la vie sur ces terrains et il y a des fois des enjeux de ramener de la vitalité dans le sol. Enfin, c'est des situations qu'on est parfois confrontées. En Alsace, on vient d'acheter une parcelle de 26 hectares qui était à la fois couverte de bâches, de détritus, avec un système d'exploitation agricole. Alors, c'était pas de la monoculture de céréales, c'était quelque chose d'un peu plus diversifié, mais qui a été fait d'une façon où aujourd'hui, on a une parcelle qui est extrêmement pauvre, en bordure de route, avec un arbre. On a un arbre sur tout le terrain. Et je crois qu'il n'est même pas sur le terrain, il doit être sur la bordure de route qui appartient au département. Enfin, c'est même pas sur le terrain Terre de Liens. Donc, comment on fait pour ramener du vivant sur ce terrain ? On va avoir des porteurs de projets qui sont partants, qui ont cette envie de faire avec nous, et on va faire avec eux. Il y a ceux qui ont besoin d'être indépendants, parce que quand on devient agriculteur, quand on abandonne un métier d'ingénieur, quand on abandonne un revenu et un confort de vie pour s'installer paysan, c'est pas pour recevoir des ordres d'un bénévole qui n'y connaît pas toujours grand-chose. Et donc ceux qui n'ont pas besoin, entre guillemets, qu'on soit à côté d'eux, on va aussi les laisser faire. Donc il y aura le cadre contractuel du bail, du contrat, qui va s'appliquer. Et puis après, chez certains, il y a cette envie d'avoir des chantiers bénévoles, d'accueillir des gens sur la ferme. Et là, l'association est un outil. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit. On se met au service aussi de l'agriculteur pour lui apporter des ressources, pour se mettre en relation avec des experts, pour trouver des personnes compétentes pour nous dire « Ah ben là, vous avez peut-être quelque chose d'intéressant à conserver, faites attention, gardez bien ces arbres-là, ils sont hyper intéressants ». Nous, on n'est pas des purs agronomes, on n'est pas des experts, donc on va plutôt s'allier à un réseau d'experts. On va avoir des bénévoles qui ont envie de découvrir, donc on va les inviter à venir à la ferme, à partager ces moments-là, à retisser le lien entre producteurs et consommateurs. On a aussi dans le réseau Terre de Liens des projets qui n'ont pas marché. parce que une difficulté économique, parce que un pépin de parcours, parce que une situation familiale qui ne fonctionne pas, une grève dans un territoire qui prend pas, et des projets qui, au bout de quelques années, on a vu que ça perdait de la vitesse, et donc il a fallu trouver un nouveau porteur de projet sur ces fermes. Donc ça fait partie de l'histoire des fermes, d'avoir ce renouvellement et de l'anticiper, de le préparer avec eux.
Marie, merci.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.